paracha de Béar, c'est le chapitre 25. Bien, alors cette paracha commence par le rappel d'une précision importante concernant les lois de la Shemitah. Je rappelle que les lois de la Shemitah sont la une des parties les plus importantes des lois de la Torah concernant la vie de la société d'Israël en Eretz Israël. Et ici, nous allons voir tout de suite un commentaire qui précise que la raison pour laquelle il y a apparemment une reprise du commandement de la Shemitah, c'est-à-dire de laisser la terre en jachère toutes les septièmes années, et de faire toute une série de dispositions d'ordre de la vie économique dans la société d'Israël, en particulier le moratoire des dettes à la septième année, qui a pour objet ce qu'on pourrait appeler dans le langage des spécialistes de l'économie un refroidissement de l'accélération économique, c'est-à-dire la disparité des classes sociales est essentiellement le résultat de l'affolement des structures économiques lorsque elles fonctionnent sans frein. Je pense que l'idée est suffisamment claire. Nous sommes habitués dans les sociétés modernes à savoir cela. Dès qu'une société fonctionne suivant les lois du marché, s'il n'y a pas des lois qui stabilisent l'égalité sociale, qui réintègre l'égalité sociale, eh bien, il part, la distance, comment dire en français, part, le fossé qu'il y a entre les différentes classes sociales s'agrandit de plus en plus. Simplement comme résultat du fonctionnement économique de la société. Est-ce que c'est suffisamment clair, hein? Les riches deviennent plus riches, et pas seulement corollairement, mais objectivement, les pauvres deviennent plus pauvres. C'est d'ailleurs un des grands dangers qui guette la société israélienne contemporaine. Depuis sa fondation, la société israélienne était la plus égalitaire qui puisse être définie, et théoriquement et concrètement. Depuis à peu près l'époque de la guerre des Six Jours, où le souci du profit économique a pris le pas sur l'idéal sioniste à proprement parler, alors on s'aperçoit qu'effectivement, il y a ce phénomène qui touche les sociétés modernes et contre lesquelles la Torah avait donné le moyen de lutter a priori par toutes ces lois dites de justice sociale. Je vais expliquer ce dit de justice sociale qui ont pour objet de freiner l'accélération économique. Tous les 7 ans et ensuite à un niveau beaucoup plus global, tous les 50 ans, le jubilé, il y a une remise en jeu de l'égalité sociale à tous les niveaux. Voilà enfin très brièvement défini l'importance de ces lois de la Shemitah par lesquelles notre Sidra recommence. Et nous allons lire les premiers versets avec le commentaire de Rashi qui indique ce que j'ai commencé à signaler tout à l'heure, qu'une des raisons pour lesquelles la Torah va reprendre ce principe des lois de la Shemitah qui a déjà été indiqué dans la Torah. En particulier, vous avez une loi très importante au début de la Sidra de Mishpatim, la libération obligatoire des esclaves la septième année. Et si l'esclave ne veut pas être libéré la septième année, alors c'est malgré lui, c'est là qu'il faudrait dire obligatoire au jubilé. Essayez de bien fermer la porte là. Et alors c'est pour indiquer donc ce que Rashi montre en citant un des Midrashim, des Midrash Halakha, le Sifré, que pas seulement le principe général de la loi de la Shemitah vient du Sinaï, mais tous les détails d'application viennent du Sinaï. Nous allons lire Rashi, et nous verrons d'ailleurs que c'est un des Rashi les plus difficiles, parce qu'il cite une source qui semble confirmer, nous rappeler quelque chose d'évident. Par rapport au problème de l'origine de la Torah révélée au Sinaï, aucune différence entre les principes et les détails. Et nous sommes tellement familiers à cela qu'on oublie de s'étonner, il faut s'étonner. Pourquoi le Midrash a tenu à mettre cela en évidence? Bien, mais ceci se rattache à la question classique Pourquoi ce rappel de la Shemitah est mis explicitement au nom de la révélation du Sinaï? On va donc maintenant tout de suite commencer à lire le texte. Prenez donc le livre au chapitre 25. On retourne à Mme Chakonia. Alors, il avait Hachem le Moshe, Berar, Sinaï, le Mont. Et Hachem a parlé à Moïse sur la montagne du Sinaï en disant, ce que je me propose d'étudier avec vous aujourd'hui surtout, c'est que signifie de façon beaucoup plus globale et beaucoup plus générale la notion de Torah du Sinaï. Il y a différents niveaux de révélation de la Torah. Il y en a un qui s'appelle Torah Mi-Sinaï. C'est peut-être un aspect des définitions traditionnelles peu connues et auxquelles il faut se familiariser. Il y a Torah Mi-Sinaï, il y a Torah de Ohel Moed, Torah de Arvot Moab, les mitzvot données avant le Mohammed Ar-Sinaï, Torah Mi-Derabanan, Torah Mi-Doraïta. Il y a différents niveaux de révélation de la Torah. Il y en a un qui s'appelle Torah Mi-Sinaï. C'est un problème très général, en fait un problème très important. Je ne sais pas si nous l'avons une fois étudié en détail, mais je voudrais un peu l'aborder. Moshe Kibel Torah Mi-Sinaï. Vous voyez cette expression Torah Mi-Sinaï. La Torah du Sinaï, c'est un niveau de la Torah qui est très important de définir. Je vous donnerai donc un certain nombre de références et nous verrons, c'est pourquoi je vous ai demandé de prendre le livre de Harimon. Si vous arrivez à m'entendre quand même, que la Torah Mi-Sinaï, c'est la Torah de la Geoula. Elle est reliée à la notion de Geoula. Geoula, ça veut dire la délivrance. C'est le sens immédiat. Vous êtes suffisamment familier à cela. La Geoula, c'est la définition même de la foi d'Israël à tous les niveaux. Premièrement, la Geoula, c'est la fin de l'exil. Et alors, nous verrons d'ailleurs le verset qui rappelle cette notion de Geoula à propos de la Shemitah, à propos de tout notre paracha d'ailleurs. Ça nous aurait étudié une fois. Pourquoi la foi d'Israël, la émouna d'Israël, s'adresse à Dieu comme Goël, comme libérateur, et ça veut dire libérateur de l'exil. Il faut toujours partir des réalités concrètes, des réalités de la réalité historique de l'histoire d'Israël. Nous allons le voir plus en détail tout à l'heure. À travers les 2000 ans de Galout, de l'exil, très souvent des notions de base de la tradition juive se sont devenues abstraites, sont devenues désincarnées et ont perdu leur signification concrète. Je vous donne un exemple. Je venais de relire un texte important qui important, je pense, à ton sens de la foi. Important par l'auteur de ce texte, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Qui se base sur la première révélation à Abraham, Lech Lecha, pour faire un très beau texte sur le dépaysement pour justifier l'exil. Lech Lecha, c'est l'appel au dépaysement. Va de ton pays. Et alors, en filigrane, la justification du judaïsme de diaspora. Alors, dans le texte, c'est tout le contraire. Il s'agit de quitter l'exil pour entrer chez soi. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point cette espèce de spiritualisation, c'est pas le mot d'ailleurs, spiritualisation mais dans le sens de sublimation, dans le sens négatif, des réalités concrètes de la foi d'Israël finit par devenir ridicule, enfin contradictoire. Est-ce que c'est clair ce gila? Et alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? Oui. Alors, on a oublié cela à travers les 2000 ans d'exil. Que la foi d'Israël, c'est pas une foi théologique, croire que Dieu existe, ça y est, bien sûr. Pour les rabbins, c'est infantile de poser la question de l'existence de Dieu. Je ne sais pas si vous savez ça. Il n'y a aucun texte qui pose ce problème chez les rabbins. Chez les philosophes, c'est différent. Et vous savez que c'est un théologien, c'est un philosophe qui se prend pour un rabbin. En fait, c'est une histoire. Je ne vais pas remarquer ça, que je fais une parenthèse, mais je crois important. Disons qu'ils sont obsédés de prouver l'existence de Dieu, c'est qu'au fond, ils sont athées. Je n'ai pas remarqué ça. savez ce que révèlent les obsessions. Et alors, il y a une athéologie. Et la théologie, c'est quand même un test. Et bon, je referme la parenthèse. Et alors, on a oublié finalement cela, que la foi d'Israël, c'est pas ce qui est le problème de la foi chez Goïm, la certitude que Dieu existe, et que par conséquent la vie a un sens, le monde a un sens, étant donné l'état du monde. La Torah ne se cache pas de dire que l'histoire du monde a commencé par le chaos, et c'est pas fini. Et on ne se rend même pas compte de quoi la Torah va parler en disant que ce monde que Dieu a créé, c'est un monde à l'état de chaos. C'est un autre problème. Enfin, le problème de la foi religieuse partout, c'est d'arriver à s'assurer que le monde a un sens. Et c'est ça que ça veut dire, la foi que Dieu existe chez les goyim. Dans la Bible, dans la Torah, chez les rabbins, jamais ça a été une préoccupation sérieuse. Et je sais pas si, pas prendre de temps pour ça, mais ce que je mets en évidence, c'est que il faut comprendre ça, c'est infantile. Je veux dire pourquoi. Comme si, ça dépend que j'y crois ou pas que Dieu existe. Je ne sais pas si vous voyez la dimension de ridicule du problème. Est-ce que c'est clair? Et alors, en réalité, la foi d'Israël, tout à fait autre chose. C'est que une promesse a été révélée, et la foi d'Israël, c'est faire confiance que cette promesse se réalisera. Et si vous explorez tout ce que Dieu a dit au patriarche, et tout ce que Dieu a dit au prophète, ça se résume à une chose fondamentale, c'est que l'exil prendra fin. Reprenez tous vos textes, depuis Abraham, et jusqu'au dernier des prophètes. Il s'agit de ça. Je ne sais pas si vous rendez compte à quel point c'est massif, un phénomène de tabou dans la conscience juive, d'avoir oublié quel est l'objet de la foi d'Israël. Bon, je referme la parenthèse. C'est la Géoula. Ce que je vais mettre en évidence, c'est que le mot de Géoula, qui va prendre des sens de plus en plus profonds, c'est d'abord cela, une donnée historique, et ce cas particulier de l'histoire du peuple d'Israël, à l'indice du peuple hébreu, à l'indice du peuple juif, qui est un cas particulier dans l'histoire des hommes, c'est que c'est le seul peuple qui sait ce que c'est que l'exil. Et sa foi, c'est que l'exil va prendre fin. Dieu qui se révèle à Israël, Dieu qui se révèle au monde à travers Israël, c'est celui qui promet que l'exil va prendre fin. On a étudié une fois l'importance métaphysique, si vous voulez, de cette donnée, c'est parce que la situation de créature, c'est une situation d'exil. Et par conséquent, ça explique pourquoi le monde entier s'accroche à la foi d'Israël, chacun à sa manière, pour essayer d'avoir ce rassurement, comme je disais tout à l'heure, que quant au mal-être de toute créature, se sachant en exil de l'être. Est-ce que c'est clair? Mais nous allons voir que la révélation, niveau de révélation, je l'appelle, révélation de Torah Sinaï est reliée à cette expérience de la Géoula, qui est la preuve que Dieu a promis que la situation anormale de la créature prendra fin, et c'est pourquoi ça prend un deuxième sens messianique, qui est la rédemption, Géoula dans le sens de la rédemption de l'identité existentielle de créature. Mais qui dispose de la preuve que la Géoula rédemption est possible? C'est Israël, dont l'histoire est la preuve que la fin de l'exil est possible. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les théologies habituelles des faiseurs de sermons sur l'obsession de savoir si Dieu existe ou pas. Je referme la parenthèse, c'est très clair. Hein? Donc, importance de cela, le lien entre la notion de Géoula et la notion de Torah Missinaï, c'est en sortant d'Égypte, en sortant de l'exil d'Égypte, que la Torah est révélée au Sinaï. Et or, effectivement, toutes ces lois, dont la Shemitah est l'exemple, sont des lois qui vont dans le sens de cette rédemption, de mettre fin, en tout cas, attendez, je reprends la phrase, de colmater, en attendant la rédemption finale, les processus naturels qui mènent à l'aliénation. Mais alors là, nous sommes occupés au problème de l'aliénation dans la société, par le fonctionnement des lois économiques, tout simplement. Et qui fait que dans toute société qui fonctionne, il y a inévitablement des aliénants et des aliénés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je enfin les maîtres des esclaves, on dit les prolétaires, c'est exactement ça, c'est mal dit. Il n'y a pas plus de capitalistes que les socialistes israéliens. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe à l'Estados. Mais c'est vrai qu'on ne fait jamais les choses comme les autres, mais enfin, les autres aussi font la même chose. C'était la campagne électorale de la pré-présidentielle française, là. Les possédants et les prolétaires. Ouais, vous avez compris. Si j'avais un coussin, c'est peut-être, mais il n'y en a pas. Il y en a un. Ou peut-être un manteau coupé en quatre. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Femme. Bien. Alors, on va prendre tout de suite au début. Je vous rappelle simplement un problème qui a des références précises. Pourquoi la Torah du Sinaï est liée à la notion de Géoula? Oui, très bien. Pourquoi la Torah du Sinaï est reliée à la notion de Géoula? Simplement rappelez-vous le premier verset. Les commandements, Anochi, Hashem Anokecha, Hashem Tzetzicha, Amrech Mitraïm et Betarak. Qui est-ce qui révèle la Torah du Sinaï? Celui qui se définit en disant: je suis Hashem, votre Dieu, qui, c'est au singulier, Hashem, ton Dieu, qui t'a délivré du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Voilà, c'est la référence essentielle. Toutes les autres vont dans le même sens, il y a beaucoup d'autres références qui montrent le lien entre eux. Torah du Sinaï et la notion de Géoula. On verra les références d'ailleurs dans notre paracha même. Voilà pour le premier verset. Alors on avance. Il avait Hachem et Moshe, Béra, Sinaï, les mots. Navel ben Israël, Amartaléhem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quitte à vous et la arrête. Lorsque vous viendrez au pays, Hacherani Notelachem, que je vous donne, petite parenthèse sur que je vous donne, ça je le répète souvent, mais il faut encore répéter. Parce qu'on va avoir, à partir de ces dernières semaines, le problème de Jérusalem commence à prendre déjà une grande importance politique et diplomatique. On va encore avoir le problème du droit d'Israël au lien à la terre d'Israël. Cette histoire de fou qui est que, de tous les pays du monde, le seul à qui on dispute le lien entre le peuple et la terre, c'est Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et qu'il faut attendre que ce soit, comme il y a dans le livre d'Esther, quand Mardoché dit à Esther, si c'est pas toi qui t'occupe de ton peuple, mais Mako Maher, ça viendra d'un autre endroit. Il faut attendre que les républicains américains se rappellent, contre l'avis du gouvernement israélien, que Jérusalem est la capitale d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez que nous vivons un roman surréaliste et pessimiste. C'est surréaliste complètement. Et en tout cas, on va encore être obsédé par ces définitions théologiques en langage occidental, la terre de la promesse, la terre promise. Et avec à la clé, la terre vous est promise, mais à condition que tout ça, c'est des inventions anti-juives. Ça n'existe pas, la terre n'a jamais été promise, elle a été donnée. Hacher Anochi, noten lachem, c'est clair? Vous n'avez aucune référence où Dieu parle de la terre promise. C'est une invention des chrétiens. Et mon excellent ami Chouraki, André, et je ne dis pas ça avec humour, c'est pire, c'est sincère, a inventé en français un très joli mot, mais dont les chrétiens se sont emparés, la terre de promission. Mmh. Très joli en plus.
Oui.
C'est la promission. Oui. Et alors il y a deux. C'est un problème ce que je viens de dire là. Mais il y a surtout cette réticence. Je crois le secteur qui est le plus atteint par ces fausses traductions, c'est le secteur des juifs religieux, qui ont des réticences, de scrupules théologiques, parce qu'ils ont appris leur judaïsme dans des langues étrangères. Et qui pensent comme ça, Bien sûr, la terre d'Israël, c'est sûr. Oui, mais est-ce qu'on a assez de mérite? Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce que vous avez compris tout ce que je dis? C'est très grave, c'est un pourrissement de la conscience. Parce que il s'agit d'une autre religion. Je vais vous dire en quelques mots. Il y a beaucoup de gens qui disent au fond, bon, il n'y a pas tellement de différence entre les Juifs et les chrétiens dans l'attente du Messie. Les uns croient, attendent qu'il va venir et les autres qu'il va revenir. Moi, je ne veux pas la même chose. Mais ça n'a rien à voir. Un Messie qui vient, un Messie qui revient. Je ne sais pas si vous sans plus qu'il ne revient pas. Ça fait 2000 ans qu'il ne revient pas. Non, je ris parce que c'est énorme. Comme... Le Messie qui vient, c'est le temps biblique. Il mène à un aboutissement. Le Messie qui revient, c'est le temps cyclique. Alors ça renvoie à Nietzsche. C'est deux univers complètement, rien à voir. Et alors vous avez des humanistes juifs qui tombent dans le piège. Alors on va voir de nouveau ces clichés. Jérusalem, capitale des trois religions. Jérusalem à partager. Je sais pas si on est compte du piège, okay? Que les goïms disent ça, on comprend. Mais que les juifs disent ça, c'est très grave. D'autant plus tout ça, c'est faux. Jérusalem n'a jamais été la capitale des trois religions. Jamais la chrétienté n'a considéré Jérusalem comme sa capitale. Et jamais l'islam n'a considéré. Et puis jamais Jérusalem est la capitale de quoi que ce soit d'autre que d'un État juif ou hébreu. C'est facile. Et vous savez ça. Okay? Et alors, en tout cas, le caractère cocasse. Et d'un point de vue rassurant, c'est qu'au fond, qui se dévoile de notre temps, c'est important de mettre ça en évidence, que si nous avons tous ces problèmes, c'est parce que ça vient des Juifs eux-mêmes. La preuve, c'est que depuis si longtemps, on a attendu que les puissances mondiales se décident à reconnaître que, et dès que, tête à queue. C'est fantastique. Moi, je crois qu'il faudrait une fois. Je vais vous dire pourquoi c'est rassurant. Parce que c'est plein d'humour en plus. C'est énorme, quoi. Il faudrait une fois mettre ça en évidence. C'est que, on peut se rassurer, c'est bien nous, cet Israël, dont la Bible raconte cette histoire-là. Qui est que, dès la sortie d'Égypte, il s'agit d'un peuple rebelle, laissez l'antisémitisme de côté. Mais il s'agit d'un peuple. Les phrases de la Bible sont plus graves que rebelles. Tordues et plus que tordues. Alors rassurez-vous, c'est pas nouveau. Mais ce qui est de tragique, c'est si subitement, au point de 2000 ans, ces choses tordues apparaissent comme une sorte de tragédie et qui disqualifierait une espérance vieille de 3000 années. 4000 ans, 3500 ans après la sortie d'Égypte. Non, en fait, c'est la réalité concrète de notre histoire, ça rassure. Je sais pas si c'est clair. Et je veux dire ça avec une référence dans la Gemara. Et normalement, la référence suivante. En ben David ba, et la bedor shiklo chayav, ou bedor shiklo zakai. Ce qui est encore une de ces références talmudiques très difficile à comprendre. Ben David, le fils de David, c'est-à-dire le Mashiach ultime, celui de la réalisation messianique, celui qui vient après le Mashiach Ben Yossi. Ben David, Mashiach Ben Yossi est un Mashiach du rassemblement des exilés. Eh bien, le Mashiach Ben Yossi fonctionne déjà, les exilés se rassemblent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, encore aujourd'hui on assistait à ça, ou hier à la télé, on a vu la commémoration du 50e anniversaire de la victoire des armées russes sur l'Allemagne nazie ou à Jérusalem. Vous avez marqué ça avec les Russes, c'était des Juifs. C'est énorme ça aussi, on ne se rend pas compte. Donc là, pour revenir au sujet, En Ben David ba, le fils de David deviendra, ma chère Ben David, que dans une génération où tout le monde est méritant, chez Kolozakai, où tout le monde est méritant. Même si on dit ça dans le Talmud, dans le terme Talmud, dire c'est Guzma. Qu'est-ce que ça veut dire, Guzma? Exagération. C'est une dimension de l'étude talmudique. Quand il y a Guzma, d'Axim, okay? Guzma, il faut comprendre pourquoi les rabbins s'expriment comme ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas venir. Parce parce que ça n'existe pas, ça. Une génération tout entière méritante ou tout entière déméritante. Il n'y en a même plus. Il y a dans le sabbatéisme, vous avez entendu parler du sabbatéisme, il y avait une tendance que les justes empêchent le Messie de venir, parce que la majorité de la génération est déméritante, mais comme il y a des justes, ça empêche le Messie de venir. Vous avez compris où ça peut mener comme des. Désolé. Ça a existé, ça. Chez les sabbatéens, chez les franquistes. Vous avez entendu parler des franquistes? Bon, la secte des sabbatéens, vous savez, c'est dans le monde Sfarad, c'est sorti. Les franquistes, c'était dans le monde Ashkenaz. Voilà, plus tard, mais c'était dans Autriche, Bohème, Bavière. Et une secte de ce type. Bon, les sabbatéens sont entrés dans l'islam, les franquistes sont entrés dans la chrétienté. Mais vous voyez, les débordements, les maladies de l'attente. Les maladies de l'impatience, où ça peut mener. Mais la culture juive contemporaine est intoxiquée par ces choses-là. En tout cas, je reviens à la référence. Et alors, l'explication simple de l'étude talmudique, c'est Kulo Kerubo. Chaque fois que la Mishnah ou la Gemara dit un klal, ça veut dire Werov. Vous comprenez en hébreu? Ça veut dire quand on dit chez Kulo Zakai, ça veut dire la majorité. Et mérite. Il y a un mishkal. Le jugement, c'est une balance. Il suffit qu'un plateau surmonte pour que la décision soit donnée. Ça veut dire s'il y a 51, c'est comme s'il y avait 100. La preuve, la démocratie israélienne. S'il y a 61, c'est comme s'il y avait 120. Et pour faire bien, le 61, c'est toujours un arabe. On continue le roman surréel, l'histoire. Je vous parle de la Knesset. En tout cas, pour revenir au sujet, la réponse de la halakha est très simple. Ça veut dire d'or, shekulo, rubo, hayav, alors, c'est clair. Ça veut dire si la majorité mérite, alors la clause du mérite joue et le Messie vient. Si la majorité ne mérite pas, alors Dieu décide qu'il faut que le Messie vienne quand même. Parce que Bimé Rabbi Aminou, qui viennent avant le temps fixé, ça c'est sûr, on mérite, mais même si on ne mérite pas, eh bien il viendra. Autant il doit venir qu'on ne mérite pas. C'est compris le raisonnement? Je ne vais pas prendre tout le temps, mais je veux que le raisonnement soit clair. Hein. Et je dirais une référence, c'est Dayo Level Meyeblo. Ça veut dire que, je traduis, Dayo, il y a trois mots, mais c'est du japonais. Je vais traduire ça en tabarek, parce que j'ai plus mon français littéraire en tête. Ça lui suffira, à celui qui est en deuil, d'être en deuil. C'est trop. Et alors, l'étude du Talmud, c'est de qui est en deuil on parle. C'est Israël. Le deuil de l'exil sera insupportable, alors il reviendra. Qui mérite ou pas. Et puis, une deuxième réponse, c'est Dieu. Ça veut dire c'est Dieu qui décidera de les ramener, parce que lui aussi est en deuil quand Israël est en deuil. Rappelez-vous l'expression talmudique en hébreu, c'est Dayo Lehevel Mehevel. Alors, de quoi j'étais en train de parler sur le sujet? Ah oui, le fait que la foi d'Israël, lorsqu'elle se sublime de manière abstraite, elle ne sait plus de quoi elle parle, mais en fait il s'agit effectivement de la Geoula, c'est-à-dire de la fin de l'exil. Et j'ai relié à cela l'analyse de l'expression « la terre promise ». C'est la terre donnée. En fait, le seul problème, c'est pourquoi il fallait confirmer à Israël que sa terre lui est donnée. Vous avez compris la question du FN? Parce que, j'ai plus le chiffre en tête, mais énormément de fois, dans la Torah, Dieu s'adresse à Israël pour lui confirmer que la terre lui est donnée. Et si c'est sa terre, pourquoi il faut lui confirmer qu'elle lui est donnée? Et nous savons qu'Eretz Israël, c'est la terre des Hébreux. Je vous donne la référence pour ceux qui ne l'ont pas en tête. C'est dans l'histoire de Joseph que le pays de Canaan est appelé Eretz Ha'Ivrim, la terre des Hébreux. Lorsqu'Abraham sort de Kazim, de lui-même, il va au pays de Canaan parce qu'il rentre chez lui. À quoi ça ressemble? Dieu ne lui a pas dit où aller. C'est clair, vous vous rappelez de tout ça, Ken? Alors si c'est la terre des Hébreux, pourquoi il faut que Dieu confirme? On a laissé de côté la terre promise, mais la terre donnée, ça doit s'expliquer aussi. Pourquoi il faut que Dieu confie sa sagesse? Eh bien, c'est parce que de l'identité hébraïque de l'exil, il y a une seule lignée qui deviendra Israël. L'identité hébraïque est beaucoup plus large que l'identité Israël. Toutes les autres lignées se sont perdues. Et vous avez le modèle de cela, ce que je viens de dire, c'est la famille d'Abraham. Toutes les dimensions de la famille d'Abraham, c'est les dimensions de l'identité hébraïque devenue araméenne dans l'exil et qui s'est perdue dans l'exil en devenant autre. Nous avons étudié de différentes manières cette chose-là. Donc je ne prends pas trop de temps, c'est un problème très important. Il y a trois niveaux de la promesse. Abraham. Et ensuite, deuxième niveau, pas tout Abraham, Isaac. Et ensuite, troisième niveau, pas tout Isaac, Jacob. Donc, pourquoi Jacob? Qui devient Israël? Ça veut dire, à la sortie d'exil, toute la famille d'Abraham sort d'exil avec Abraham. Mais il y a seul cette identité hébraïque qui devient Israël, à qui est confirmée que la terre des Hébreux est la sienne. Les hommes ne sont plus hébreux. Je dis ça très rapidement, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde, hein? Par exemple, Ishmaël est un fils d'Abraham, mais il n'est pas hébreu. D'ailleurs, il n'est pas un fils d'Abraham, c'est un fils d'Abraham. Quand Abraham était encore araméen. Et puis c'est le fils de Hagar. Et vous savez que chez les Juifs, ils ont le fils de sa mère. C'est la première référence. On me demande toujours, mais comment on sait que c'est le fils de la mère qui est l'identité d'Israël? Et bien regardez, c'est très simple. Vous comparez Ishmaël et Isaac. Le père, Abraham, c'est le même, à deux niveaux différents. Mais c'est la mère qui est différente. Alors cherchez la mère. Si c'est Sarah, alors c'est Isaac. Mais si c'est Agar, c'est Ishmaël, donc ça vient de ma mère. Est-ce que c'est clair? Il suffit qu'on regarde quelqu'un d'un regard Agar, il devient arabe. Non, le regard de Agar, on n'en parle pas. Mais la haï roi, le regard de Agar. Non, c'est notre sujet. Je reviens en tout cas au sujet. Donc, c'est la terre donnée, pas la terre promise. Seulement, la condition, c'est pas ce que l'on chercherait en dehors de l'identité d'Israël. Par exemple, ce que disent les humanistes, donner un témoignage de morale chrétienne, se laisser massacrer par les Palestiniens. Au fond, c'est ça ce qu'on demande de nous. Mais, je ne sais pas si vous rendez compte, mais c'est formulé à la chrétienne. Parce que lorsque les chrétiens, eux, font la guerre, eh bien, ils ne fonctionnent pas comme des chrétiens. Ils essayent de fonctionner comme des juifs. Enfin, comme des Israéliens. Ils essayent de gagner la guerre. Tandis que nous demandons, nous, c'est de la perdre. J'ai remarqué ça. Eh bien, il s'agit d'être Israël. Il n'y a pas d'autre condition. Les promesses sont faites à Jacob. Et quelle est la clause pour que les promesses faites à Jacob se réalise, c'est que Jacob devienne Israël. Et Israël, c'est vers Amer Kulam Tzadik. Je reviens donc à cette Gemara. Dit le David Bar est là, mais d'autres c'est comme Raya. Donc, je crois par le pshat du verset, ça se, la maskana de la Gemara sera claire. Donc, c'est Kulo Raya ou Kulo Zakai, c'est quand la majorité est méritante de même. Et le verset qui est cité est ton peuple, c'est tout entier et juste. Vermeer, Kolam, Tadik. J'ai entendu du Rav Kook, du Rav Seyoudat, comme le Bracha, qui explique comme ça. Vermeer, Kolam, Tadik. Quand ton peuple est tous ensemble, c'est des Tadik. Vous avez compris la lecture. Bon, alors je referme la parenthèse. On va voir. Donc, la fin du verset. Lorsque vous viendrez au pays que je vous donne, le chaf taharé sera de la chair, la terre fera Shabbat, un Shabbat pour Hachem. C'est la notion de Shabbat qui est reliée à la notion de Géoula, comme nous allons le voir par un autre verset. Mais d'abord, on va répondre à la première question, pourquoi il était nécessaire de rattacher la Shemitah à la notion de Torah Missinaï, c'est clair? Alors on lit Rashi. Ma'inan Shemitah et Tzelar Sinaï. Quel est le sens du sujet de la Shemitah relié au mont Sinaï. C'est devenu une expression traditionnelle dans l'hébreu, comment dire, de la sagesse. Bon, même je crois que les Israéliens emploient cette expression. C'est-à-dire, quel rapport ça a ? Deux choses qui apparemment n'ont aucun rapport. Marie Nation, Shemitah et l'Har Sinaï. Qu'est-ce que la Shemitah vient faire avec l'Har Sinaï ? La question se pose vraiment, parce que la Shemitah, c'est en Eretz Israël, l'Har Sinaï, c'est dans le désert. Alors pourquoi Dafka la Shemitah, il faut le relier, le mettre sous la rubrique Eretz Israël ? Vous avez compris ma question ? Hein ? Toutes les lois de la Shemitah concernent la vie d'Israël, dans le pays d'Israël. Har Sinaï, c'est le désert. Il n'y a pas de Shemitah dans le désert.
Nous sommes dans le désert, la Torah, pas toujours.
Non. La Torah n'est donnée que pour Eretz Israël, papa. Ça renforce encore la question. Regardez comment ça se passe. Vaïdaber, Hachem, le Moshe, Behar Sinaï, les mots. Daber, le béni Israël, en Atalib, Kitao, l'arrêt. Qu'est-ce que Dieu avait dit au Sinaï Israël quand vous rentrez au pays? C'est comme ça que c'est écrit en hébreu. Toute la Torah ne concerne qu'Eretz Israël. Et pour quelle raison on la pratique en dehors, ce qu'on peut pratiquer en dehors, c'est pour ne pas l'oublier. Il ne faut jamais dire ça aux gens de diaspora. Ce que vous dites là, c'est Nahmani. Hein? Il n'y a personne de la diaspora ici, j'espère. Il y en a sorti. C'est Nahmanine qui enseigne ça. Les mitzvot en force de Kedusha que en Eretz. Alors il y a des niveaux. Vous savez qu'il y a des mitzvot qu'on peut pratiquer qu'en Eretz Israël. Ça s'appelle mitzvot que bah, les mitzvot qui dépendent du pays, dont la Shemitah par exemple. Le Rafouk a toujours insisté là-dessus. C'est les mitzvot qui dépendent du pays, pas le pays qui dépend des mitzvot. C'est les mitzvot qui sont plus de Baharet. Pas Haret qui sont plus de Baharet. Est-ce que c'est clair? C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une condition? Au contraire, d'Afra. Mais alors, les mitzvot qui préservent l'identité d'Israël, en force de loi aussi, en galout, mais pas avec le sens qu'elle a pour la Torah. C'est des mitzvot de conservateurs. J'ai entendu parler de cette religion juive qui s'appelle les conservateurs. C'est les mitzvot conservatoires. Et alors bon, ça nous a préservés. Et maintenant qu'on est dans l'Eretz Israël, alors la mitzvah commence à prendre son sens. Et c'est vrai pour toutes les mitzvot d'Inahmanit. On continue à les pratiquer en Chutz La'aretz pour ne pas les oublier, pour savoir comment les pratiquer quand on revient dans l'Eretz Israël. L'Inahmanit dit, la Torah a été donnée par Elohe Haaretz. Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Lamo Israël. Et Makom, c'est Yerushalayim. Cette notion, c'est une notion très importante qui était connue par les anciens, les Romains, et d'ailleurs il y a des, comment dire, corollaires dans les problèmes de droit, même modernes, le droit du sang, le droit du sol. C'est, je me dis en latin, plus juste regio, plus juste religio. C'est... La religion dépend de la région. Les Sarim, qui dirigent les peuples, les dirigent d'après leur géographie. Si on se trouve dans la géographie d'un peuple, on se trouve sous l'influence de tel ou tel Sar, qui est le Sar du peuple en question. Bon, tout ça, vous êtes familier à toutes ces choses-là. Ça ne reprend vraiment importance évidente que parce qu'on est revenu au pays, et une consigne chez les rabbins de ne pas parler de ça en diaspora. Mais c'est radical, c'est absolu. D'ailleurs, vous avez dû remarquer vous-même, chaque fois que vous allez en vacances à l'étranger, comment vous percevez le caractère artificiel de la vie juive en diaspora. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, plus c'est pieux et plus c'est caricaturé. Je me rappelle d'un enseignement du Rav Kook. Il disait, un juif normal est pieux. Et un goy normal n'est pas pieux. Alors pour que un juif devienne pas pieux, il devient normal, il faut qu'il soit normal. Et pour qu'un goy soit pieux, il faut qu'il soit normal. Alors les goyim se déguisent pour faire pieux. et les juifs imitent. Vous avez compris ce que je veux dire? Les juifs de la Gola imitent les sorciers. Parce que qu'est-ce que c'est faire pur? C'est se mettre un masque et dire, regardez-moi, je suis pieux. Mais c'est ça le sorcier. Est-ce que c'est clair? Et en général, c'est un masque triste. Dans la culture grecque, c'est très clair, les masques de la piété sont des masques diaboliques. Je ne sais pas si vous avez vu la télé hier soir, à la télé israélienne. Mais pas mal. Personne n'a vu les Hadashot hier soir, la télé israélienne. Alors je n'en parle pas. Mais on a ces images-là qui renforcent cette indication de Yah. Une noblesse de la piété naturelle, et ça se sent tout de suite, la piété naturelle, c'est plus qu'une noblesse. Et puis il y a cette caricature du masque de la piété, qui est ce masque de la défigure du sorcier. Est-ce que c'est le plus clair ce que je dis là? Bon. Ceci dit, jamais généralisé, il y a des juifs en Israël, et il y a des hébreux en Gola. Si vous faites un tour dans les yeshivot en diaspora, vous verrez aussi qu'il y a des vrais hébreux parmi les juifs. Et si vous faites un tour à Meacharim, vous verrez qu'il y a des juifs chez Israël. Oh, vous vous comprenez ce que je dis? Quand je dis juif, ça veut dire diaspora. Il y en a plus à Mébrach d'ailleurs. Alors, tout on revient au sujet. C'était la suite d'une question à laquelle. Ah oui, Arsinaï et Shemitah. Ma Inyan Shmita et Zelar Sinaï. Va alors que la mitzvot n'est pas au Sinaï. N'est-ce pas que toutes les mitzvot sont venues au Sinaï? Et là, ma Shmita n'est pas au Klaloteha, mais tout cas au Sinaï. Voilà ce qu'on apprend. C'est un principe pour toutes les mitzvot. Et on apprend de cette paracha. Du fait qu'ici, la Torah a indexé les mitzvot de la Shmita dans le détail à l'indication sur le mont Sinaï. De même que la Shemitah, les détails et les principes généraux sont donnés du Sinaï, de même, Kulam Nemo et l'Otéon du Fébi Sinaï. De même pour toutes les mitzvot, voilà ce qu'on apprend dans les détails que les principes. Alors voilà, le vrai problème est le suivant. On risquerait de penser que Sinaï n'ont été révélés que les principes généraux, mais que tous les détails d'application des mitzvot ne sont pas du Sinaï. Dans quel sens? Dans le sens de signification Torah Misinaï, ça veut dire Torah de la Géoula. Ça ici, c'est un midrash pharisien qui est formulé intentionnellement contre la position idéologique des Sadducéens. La position idéologique des Sadducéens, on retrouve un peu chez les libéraux et chez les conservateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et surtout dans la scala de ces penseurs religieux du 19e siècle en Europe. Dans le milieu pieux même, que les grands principes viennent du Sinaï, mais que les détails casuistiques d'application des différents cas particuliers, ah, ça c'est pas révélé. Ça c'est du raisonnement talmudique, donc d'une autre nature de droit biblique, de droit talmudique. Vous avez compris ce que je veux dire?